8h44 à Paris, nous sommes le mercredi 3 juillet à la une de l'actualité. La campagne pour le second tour des législatives en France, dépôt des candidatures clos depuis hier soir. 220 candidats environ se sont désistés pour éviter des triangulaires et faire barrage au Rassemblement National. Des triangulaires qui n'auront lieu finalement que dans 95 circonscriptions. Le RN de son côté espère toujours une majorité absolue de 289 sièges, mais selon Marine Le Pen, il formerait un gouvernement même avec une majorité relative à 270 députés, en complétant avec d'éventuels soutiens à droite. Au Royaume-Uni, les législatives ont lieu demain. Les travaillistes, emmenés par Keir Starmer, sont les favoris des sondages. Après 14 ans de pouvoir conservateur, on sera à Londres, en ligne avec notre envoyé spécial dans le journal de 9h. Aux États-Unis, les poids lourds du Parti démocrate commencent à s'interroger publiquement sur l'état de santé de Joe Biden, candidat à sa réélection en novembre, après le débat calamiteux contre Donald Trump jeudi dernier. C'est le cas de l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Joe Biden rencontre aujourd'hui les gouverneurs démocrates. Dans la bande de Gaza, 250 000 personnes environ appelées par l'armée israélienne à évacuer des secteurs de l'est de Rafah et de Khan Younes avant une probable nouvelle opération militaire dans ces zones. Le football, les affiches des quarts de finale de l'Euro sont complètes. Samedi à Berlin, les Pays-Bas affronteront la Turquie. Les Néerlandais vainqueurs 3-0 face à la Roumanie. La Turquie qualifiée aux dépens de l'Autriche. Victoire de 2-1. La revue de la presse africaine, c'est avec vous. Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
À la une, ce matin, la longue liste des disparus au Burkina Faso.
Il y a 10 jours, le journaliste Atiana Serjoulon, directeur de publication du bimensuel d'investigation L'Événement, était enlevé à son domicile par des agents du renseignement. Depuis, aucune nouvelle. RSF, Reporters sans frontières, dénonce le silence assourdissant des autorités burkinabées. Vendredi dernier, c'est le journaliste écrivain Adama Bayala qui était porté disparu. Selon sa famille, relate le site d'information Kouassi, il aurait quitté son bureau pour se rendre à Sissin, un quartier de Ouagadougou. Depuis lors, aucune nouvelle. Il est introuvable et injoignable au téléphone. Connu pour ses analyses parfois controversées sur la vie de la nation, Adama Bayala a été journaliste au quotidien d'État Sidoya avant de rejoindre le service de communication de la présidence du Faso, puis du ministère en charge de la culture, des arts et du tourisme. Il est aussi l'auteur de plusieurs romans, dont Les bénédictions d'une mère et La République Banabana.
Les disparitions sont devenues monnaie courante au Burkina Faso. C'est ce que constate Jeune Afrique, qui nous propose une longue enquête intitulée « Les disparus d'Ibrahim Traoré ».
Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine putschiste en octobre 2022, le Burkina Faso vit au rythme des enlèvements et des enrôlements forcés de ses opposants civils comme militaires. Une redoutable machine à réprimer, s'exclame le site panafricain. Tous ceux qui osent s'opposer à lui savent qu'ils s'exposent au même sort dans le Burkina Faso d'Ibé comme dans celui de Blaise Compaoré. Les voix gênantes sont réduites au silence, parfois pour l'éternité. Selon les estimations d'avocats et de défenseurs des droits humains, une trentaine de personnes n'ont plus jamais donné signe de vie après avoir été enlevées par des hommes non identifiés, sorte d'escadron de la mort qui agissent en dehors de tout cadre légal et judiciaire.
Les méthodes sont presque toujours les mêmes, pointe Jeune Afrique.
Oui, un petit groupe d'individus en tenue civilo-militaire, armés et souvent cagoulés, kidnappent leur cible, la contraignent à monter dans leur véhicule et disparaissent dans la nature. Difficile d'avoir leurs identités précises, mais selon plusieurs témoins et sources concordantes, ils agissent principalement pour 3 unités, l'ANR, l'Agence Nationale de Renseignement, la Direction de la Sûreté de l'État et la Sécurité rapprochée de Traoré. Les personnes enlevées sont ensuite envoyées dans des villas appartenant à l'État, croit encore savoir Jeune Afrique, où elles sont interrogées et parfois torturées.
Par ailleurs, poursuit le site panafricain, Ibrahim Traoré s'est forgé un autre redoutable outil de répression.
Oui, un outil dont il use à l'envi pour casser ses opposants. Son décret de mobilisation générale qui permet la réquisition de tout citoyen majeur pour lutter contre les groupes djihadistes. Depuis son adoption en avril 2023, plusieurs dizaines de personnes qui avaient critiqué le régime ont été enlevées, réquisitionnées selon la terminologie officielle et envoyées de force au front en tant que volontaires pour la défense de la patrie, les supplétifs civils de l'armée auxquels Traoré a massivement recours pour mener sa stratégie de guerre tous azimuts. Objectif, faire rentrer ces récalcitrants dans le rang en les soumettant plusieurs mois durant un traitement militaire sévère.
À la une également, une photo qui fait grand bruit au Cameroun.
On y voit 2 femmes en train de s'embrasser. Avec ce commentaire, je suis folle de toi et je veux que tout le monde le sache. Celle qui a posté cette photo sur les réseaux n'est autre que Brenda Biya, la fille du président camerounais Paul Biya. Un coming out qui secoue le Cameroun, s'exclame Afrique.com, qui rappelle que dans le pays, l'homosexualité est illégale et sévèrement punie. En effet, commente Le Monde Afrique, ce cliché aurait pu passer inaperçu s'il n'était pas question de la fille du chef d'un État où l'homosexualité est un crime. En tout cas, relève le journal, ce coming out venu d'une enfant célèbre a été accueilli comme un espoir par les organisations de défense des droits des LGBTQ+, camerounaises, et que les mentalités évoluent. Je salue le courage de Brenda Biya, qui assume son droit fondamental d'aimer et d'être aimée. Ainsi réagit l'avocate Alice Ncom, figure de la lutte pour les droits homosexuels au Cameroun. Le Monde Afrique qui note aussi que Brenda Biya est à l'abri de la loi camerounaise. En effet, la fille du président camerounais est installée en Suisse.
Frédéric Couteau, votre revue de presse à retrouver sur RFI.fr. Vous revenez à 9h15 pour un coup d'œil à la presse internationale. Va-t-on vers un apaisement entre le Niger et le Bénin ? Depuis bientôt 5 mois, Niamey refuse de rouvrir sa frontière avec le Bénin. La semaine dernière, vous vous en souvenez, 2 anciens chefs d'État du Bénin ont été accueillis au Niger par le chef du régime militaire, le général Tiani. Aujourd'hui, on apprend qu'une délégation du Niger pourrait être bientôt reçue au Bénin par le président Patrice Talon. Le juriste Théodore Olo a été ministre béninois des Affaires étrangères. Il a également présidé la Cour constitutionnelle de Cotonou. Il est ce matin l'invité de Christophe Boisbouvier.
Professeur, bonjour.
Bonjour.
Comment expliquez-vous que le Niger ait accepté de rouvrir sa frontière avec le Nigeria et pas avec le Bénin ?
Il y a de très bonnes relations entre les populations de part et d'autre des frontières au nord du Nigeria et au sud du Niger. Les anciens présidents du Nigeria sont allés aussi à médiation parce qu'ils ont dissuadé le président Bola Tinubu de mettre en œuvre la décision d'intervenir militairement au Niger. Cela a amené les dirigeants du Niger à penser que le Nigeria n'est pas leur ennemi et ils ne peuvent pas s'opposer au Grand Nigeria. Mais le Bénin est le maillon faible de la chaîne et il y a une sanction directe qui est le fait que le port de Cotonou rapporte également au Bénin beaucoup de ressources, à peu près 20 à 30% de ces ressources grâce au transit des produits en destination du Niger. Je crois que nous sommes plus faibles que le Nigeria et on a voulu nous tirer davantage les oreilles. C'est comme ça qu'il faudrait le comprendre parce qu'il n'y a pas de raison. Une fois que le Bénin a décidé d'ouvrir les frontières, que le Niger n'en fasse pas autant en évoquant des problèmes de sécurité de la présence de bases militaires qui constitueraient une menace pour la sécurité des nouveaux dirigeants de ce pays frère.
Oui, pour justifier cette frontière toujours fermée avec le Bénin, le Premier ministre du Niger a accusé le Bénin d'abriter, je cite, « des bases militaires où l'on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser le Niger ».
Je crois que cet argument, à mon avis, n'est pas fondé. En tout cas, je n'ai pas d'éléments concrets pour soutenir le point de vue du Premier ministre du Niger. C'est peut-être un argument pour justifier le maintien de la fermeture des frontières.
Alors, vu la frontière fermée entre le Niger et le Bénin, une partie du trafic de marchandises en provenance ou à destination du Niger ne passe plus par le Bénin mais par le Togo. Est-ce que dès le mois d'août dernier, ce pays, le Togo, n'a pas adopté une attitude différente des autres pays de la CDAO à l'égard du régime putschiste du Niger ?
Le Togo n'a pas la même adhésion aux valeurs de la CEDEAO. Je voudrais rappeler que le Togo fait partie des pays qui refusent la limitation du nombre de mandats des présidents de la République souhaité par un projet de protocole au niveau de la CEDEAO. Je voudrais rappeler que la CEDEAO, en son temps, en 2005, avait également essayé de s'opposer à l'arrivée au pouvoir du président Faure Gnassingbé, ministre des Travaux publics, à la tête de l'État, alors qu'il était prévu dans la Constitution que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait lui succéder.
Fambaré Gnatchaba.
Gnatchaba, qui était président de l'Assemblée nationale. Donc il y a cette frustration, certainement, qui explique cette attitude de complaisance vis-à-vis du Niger de la part du Togo.
Est-ce que derrière ce bras de fer actuel entre le Bénin et le Niger, il n'y a pas un autre bras de fer, plus ancien historiquement, entre le Bénin et le Togo ?
Vous savez que nous avons toujours des difficultés avec le Togo, puisque vous savez qu'une ancienne ministre de la Justice et garde des Sceaux du Bénin, Mamadou Rikiat, qui fut conseiller spécial du président fort est actuellement en détention pour avoir voulu être candidate à l'élection présidentielle
au Bénin.
Au Bénin, condamné pour terrorisme par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et les interventions des présidents togolais, sénégalais, même ivoiriens n'y ont rien fait. Il y a peut-être également cette frustration qui peut justifier ce coup que joue le Togo au Bénin. Certainement.
La semaine dernière, deux anciens présidents béninois, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, ont été reçus à Niamey par le général Tiani, le numéro 1 du régime militaire nigérien. Cela est-il de bon augure à votre avis?
Qu'il ait accepté de recevoir des anciens présidents de la République est déjà de bon augure. Que les anciens présidents de la République, à la différence de ce qu'ont fait les anciens présidents du Nigeria, n'aient pas exigé le retour au pouvoir de Bazoum, cela permet, à mon avis, de discuter, d'écouter les arguments des uns et des autres et de voir les conséquences nécessaires qu'il est possible de faire pour retrouver la quiétude entre les deux États, puisque nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et je crois que les anciens présidents Yayi Boni et Nicéphore Dieudonné Soglo ont rendu compte au président Talon des résultats de leur mission. Et je crois savoir qu'il y aura eu l'arrivée certainement d'une délégation du Niger pour que au moins les voies de la négociation soient ouvertes et que les concessions nécessaires puissent être faites afin que les choses redeviennent normales.
Professeur, merci.
Le juriste Théodore Olo, ancien ministre béninois des Affaires étrangères, avec Christophe Boisbouvier. À suivre, le journal, mais d'abord c'est le sourire de Maman. Maman au Gondwana, le crime le plus grave est l'outrage à président fondateur.
Oui, dans la vie, il y a plusieurs étages, dans l'impolitesse, plusieurs levels, dans le manque de respect. Depuis tout petit, on t'a appris à dire bonjour, merci, au revoir, on t'a appris le vouvoiement, le s'il vous plaît, on t'a inculqué le respect d'autrui, de tes aînés, de tes supérieurs au boulot ou dans l'armée. Bref, ces bonnes manières, ben c'est le GPS pour ta vie future, le GPS pour naviguer en tout milieu. Et c'est ce GPS-là qui peut te sauver la mise et t'éviter les situations les plus inconfortables en très très démocratique république. En matière de manque de respect, tu peux partir de là plus petite impolitesse du quartier en passant par celle envers le policier, ton banquier ou le ministre. Si on met de côté le manque de respect envers ton papa et ta maman et le blasphème envers Dieu, la différence entre les deux étant que pour ta maman et ton papa, ben c'est entre toi et eux, entre toi et toi-même. Si tu leur manques de respect, eux ne te diront rien, ils te pardonneront. Tu es leur enfant pour la vie, mais tu passeras forcément à la caisse de la vie tôt ou tard, mon ami. Quant au blasphème envers Dieu, lui non plus ne te dira rien, il t'attend là-haut. Mais sache qu'il y a toujours un zélé ici-bas qui va acheter la bagarre pour lui. Et donc, en très très démocratique république, le Kilimandjaro du manque de respect, l'Everest de l'impolitesse, c'est l'outrage à président fondateur, l'offense à notre leader bien-aimé. Là, mon ami, si tu es coupable d'offense à président fondateur, lui aussi, comme Dieu ou tes parents, ben lui aussi ne te fera rien personnellement. Il est au-dessus de toutes ces contingences bassement terrestres. Il ne va rien te dire, il ne va rien te faire, mais tu n'es pas sorti de l'auberge, mon ami. Au contraire, tu viens d'y entrer en grande pompe et c'est à coup de pompe dans le derche que tu seras accueilli et traité. Outrage à notre leader bien-aimé, mais tu es dans pain, comme on dit au Gondwana. Ta punition n'est pas prévue pour l'au-delà. Non, 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 elle sera ici et maintenant. Je ne te parle même pas de sergents s'en fout la mort des autres ou des zélés militants du parti présidentiel qui vont te chicoter. Non, mon ami, c'est la justice gondouanaise même qui t'enverra une lettre d'invitation parce que les juges ont prévu des fêtes d'anniversaire pour des impolis comme toi. Fêtes d'anniversaire avec cadeaux et gâteaux d'anniversaire dont tu te souviendras toute ta vie. Donc, sache qu'on ne fait pas d'outrage à président fondateur, hein, mais des hommages et des louanges. Si tu ne fais pas d'hommage, ce sera dommage pour ta face, hein, et tu payeras les dommages et intérêts à vie à tous les Gondouanais pour la souffrance psychologique que tu leur as infligée en outrageant leur leader bien-aimé, phare des phares, astre des astres, celui qui voit et entend plus vite et plus loin que nous tous. Que le miel soit doux à ton palais, cher président fondateur. Amen.
À demain, Maman. Vous restez avec nous après le journal. Gary Conny, le premier ministre haïtien, et notre invité exceptionnel. Entretien à 9h15.
La deuxième édition du Festival des Bacheliers se tient les 12 et 13 juillet au stade de l'Université d'Abidjan. Un événement instructif et festif pour célébrer les nouveaux bacheliers et les nouvelles bachelières. Au programme, expositions, concerts et feux d'artifice. Plus d'informations sur festivaldesbacheliers.com. En partenariat avec RFI.
tout à l'heure sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Nous nous interrogeons sur les liens entre montée de l'extrême droite en France et dégradation de l'environnement. Nous nous intéressons aux projets pharaoniques qui se multiplient dans le monde pour apporter de l'eau là où il n'y en a plus. Et nous vous donnons toutes les infos sur le nouveau concours hip-hop.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI. Ce mercredi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Le nord-est de la Grèce se rêve en nouveau carrefour gazier pour l'est de l'Europe et les Balkans. Aux côtés du gazoduc vers la Bulgarie, Alexandroupolis pourrait être la nouvelle porte d'entrée du gaz naturel liquéfié.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.
Vivez l'UEFA Euro 2024 sur RFI. Frédéric Suteau.
L'équipe de France ne séduit pas depuis le début de l'Euro et pas seulement parce que Kylian Mbappé joue avec le nez cassé. Un huitième de finale gagné sans relief face à la Belgique. 3 buts en 4 matchs. Les Français avancent au ralenti, mais ils sont là en quart de finale. Un choc face au Portugal du vétéran Cristiano Ronaldo. France-Portugal ce vendredi en direct et en intégralité. 19h temps universel sur RFI.